Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Nous sommes lundi 13 septembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal. Tout d'abord, les titres. Césarine Zgimana, l'administrateur de la commune Nyamurenza, en province Ngozi, est accusé d'être derrière le meurtre de Théoneste Mbazumutima. Ce ressortissant de cette commune a été tué puis brûlé parce qu'il était soupçonné de sorcellerie. Et les rentrées scolaires à deux vitesses, certains établissements comme ceux de Muyinga fichent presque complet. Contrairement à certaines écoles de Kayanza, dont nombre d'élèves se sont vus refoulés parce qu'ils ne se sont pas fait dépister au Covid-19. Et puis en parlant de la pandémie de Covid-19, elle sème la panique sur la colline Bgaï en province de Chibitoke, où en deux semaines, 15 personnes ont été testées positives. Elles avaient toutes participé à la levée de deuil d'un ancien chef de cette colline. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Alexandre Niungeko. Bonjour, bonsoir, suivant la position de votre écoute, et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
On démarre cette édition par le chapitre Droits de l'homme. Théoneste Mbazumutima a été enlevé le 24 août dans la ville de Muyinga. Et depuis, toujours pas de nouvelles de lui. Il aurait été kidnappé par le responsable du service national des renseignements dans cette province. Sa famille s'inquiète et demande aux autorités de lui faire savoir le lieu de sa détention. Des détails avec Josine Kaz.
Théoneste Mbazumutima, jusqu'à aujourd'hui introuvable, est un enseignant qui était jusque-là affecté à l'école fondamentale Nyamalumba de la direction provinciale de Muyinga. Selon les proches de sa famille, Théoneste Mbazumutima a été arrêté par un groupe composé d'agents du service des renseignements et des Imbonerakure à Muyinga. C'était le 24 dernier, vers 11h, près de son domicile.
Tout d'abord, il a entendu qu'il y a des individus inconnus qui demandaient son numéro de téléphone. Parmi eux figuraient des Imbonerakure et un policier. Ces inconnus l'ont contacté pour lui demander où il se trouvait. C'est par après que Théoneste a vu une moto qui le suivait alors que lui aussi conduisait sa moto. Les individus l'ont arrêté et lui ont demandé sa carte d'identité. Après, ils l'ont conduit dans les cachots de la police à bord d'une voiture du service national des renseignements.
Selon la même source, Théoneste a été conduit dans le cachot de la police à Muyinga. Depuis ce jour, sa famille n'a plus de ses nouvelles et demande aux responsables provinciaux du SNR de leur communiquer le lieu de détention de Théoneste Mbazumutima et si possible prendre connaissance des charges qui pèseraient contre lui.
Le jour suivant, d'autres co-détenus ont été auditionnés par le procureur, mais lui non. Un policier est allé signaler au procureur qu'il y a un détenu qui n'a pas été entendu. Et le procureur a demandé à Théoneste les raisons de sa détention et lui a répondu qu'il n'en sait rien. Le procureur a décidé de le maintenir dans les cachots et depuis ce jour, je n'ai plus entendu sa voix.
La rédaction de la radio Nzamba a contacté par téléphone sans succès Liev 28 Gemedé, le responsable provincial du service des renseignements, qui est aussi pointé du doigt d'être derrière cette disparition.
Mort atroce de Clavel Sindaigaya, cet habitant de la colline de Mushonge, en commune Nyamureza de la province Ngozi, qui a été battu puis brûlé, enterré le 4 septembre dernier. C'est ce que révèle Pacifique Nina Hazoué, activiste des droits humains et président du Forum pour la conscience et le développement. Il dénonce la responsabilité de l'administrateur de Nyamurenza dans la mort de ce septuagénaire qui était accusé de sorcellerie. On écoute Pacifique Nina Hazoué, le président du FUCOD.
Cette histoire avait commencé le 21 août 2021 avec le décès de la belle-fille de Claver Sindaigaya, la belle-fille étant nommée Desiderata Nishimwe. Cette épouse avait été malade pendant un moment. Selon son époux, 4 jours avant sa mort, il avait été testé comme souffrant de la malaria. Mais après le décès de Desiderata Nishimwe, la famille a accusé Claver Sindaigaya d'avoir empoisonné sa propre belle-fille. Ce qui est surprenant ici, c'est davantage le comportement de l'administrateur communal de Nyamurenza, Cesare Nizigimana, qui a été du côté de ceux qui accusaient le septuagénaire d'avoir ensorcelé sa belle-fille. Dans un premier temps, l'administrateur communal a imposé à M. Claver Senda Igaya d'aller là enfermé à la morgue avec le cadavre de Desiderata Nishimwe et lui a demandé de lui remettre la vie. Bien sûr, ce n'était pas possible. Et après, l'administrateur a demandé au septuagénaire de porter le cadavre jusqu'au cimetière, ce qui était également impossible. Et par après, l'administrateur communal a arrêté Claver Senda Igaya et son épouse, elle aussi âgée de 65 ans, les a détenus au cachot communal de Nyamurenza.
Pacifique Nina Hazoui estime que cette autorité communale devait être traduite en justice pour son implication dans le meurtre de Claver Senda Igaya.
Le 4 septembre 2021, le même administrateur communal a fait sortir Claver Senda Igaya et son épouse du cachot sans avoir consulté le PJ qui traitait le dossier, et les a emmenés sur la colline d'Yakigari, où il y avait des travaux communautaires. Il a remis le septuagénaire et son épouse à des personnes qui se trouvaient dans les travaux communautaires. Cet homme, le septuagénaire, aurait supplié l'administrateur communal, aurait même promis de payer 5000 francs de transport pour que l'administrateur communal le dépose chez lui, à Mushonge, ou bien le ramène au cachot parce qu'il avait peur d'être tué par les personnes se trouvant dans les travaux communautaires. L'administrateur communal a refusé en disant « Voilà, je vous ai fait arriver à destination ». Dès le départ de l'administrateur communal, 6 personnes qui se trouvaient dans ces travaux communautaires ont saisi le septuagénaire Claver Senda Igaya, l'ont amené à Mushonge, l'ont tabassé, l'ont tué, ont brûlé son corps et l'ont enterré en l'absence des membres de sa famille. Après, la famille a saisi le commissaire provincial qui a arrêté les 6 hommes. Mais ce qui est inquiétant ici, c'est qu'il n'y a pas de poursuite contre l'administrateur communal, alors que son rôle est primordial et prépondérant dans le processus qui a amené à l'assassinat de Claver Senda Igaya. C'est très important que l'administrateur communal Cesare Nizigimana soit tenu responsable de ce qui est arrivé à son septuagénaire.
La rédaction de la radio Nzamba a contacté Cesare Nizigimana, administrateur de la commune Nyamurenza, pour avoir sa version quant aux accusations portées contre elle, mais elle ne décroche pas son téléphone.
Nzamba.
Plus de 15 personnes dans la colline Ebgaï en province Chiritoke ont été testées positives au Covid-19 dans une période de 2 semaines. Ces personnes ont été testées positives après avoir participé dans une levée de deuil de leur chef de colline. Les habitants de la colline Ebgaï s'inquiètent de l'augmentation alarmante des cas de Covid-19. Le point avec Valérie Mouche.
Ces personnes ont été testées positives au Covid-19 après avoir participé à une cérémonie de levée de deuil de leur chef de colline du nom de Jean de Dieu, décédé le 30 août dernier. Nos sources sur cette colline indique que les habitants de la colline Ebgaï se rendaient à plusieurs quotidiennement au domicile du défunt durant le deuil de 7 jours. Un des habitants de la commune Mugina, contacté par la radio Nzamba, explique que beaucoup de personnes ont été testées positives au Covid-19. Il demande à l'administration de dépêcher une équipe médicale afin de mener un dépistage de masse.
Ce qui se passe sur la colline Gaï dépasse l'entendement. Le chef du secteur a perdu sa mère dernièrement, et après 2 jours seulement, ce chef du secteur est décédé. Les habitants ont répondu massivement au deuil. Parmi ces personnes répondues à ce rendez-vous, on trouve plusieurs cas testés au Covid-19. Nous demandons aux administratifs de dépêcher une équipe médicale sur cette colline pour faire un dépistage de masse afin de savoir les cas positifs et négatifs.
Rappelons que d'autres provinces du pays connaissent des chiffres alarmants de cas de Covid-19. La radio Nzamba n'a pas encore trouvé par téléphone les responsables sanitaires de la province Cibitoke pour connaître les éventuelles mesures qu'ils envisagent de prendre pour protéger les habitants de Bgaï contre la propagation du Covid-19.
La situation du Covid-19 est devenue alarmante au Burundi. L'inquiétude est de l'ancien ministre de la Santé, le docteur Jean Minani. Il appelle le président de la République lui-même à prendre des mesures très discrètes pour combattre la maladie et au besoin limoger les autorités qui ne font pas respecter ces mesures, sinon lui et son gouvernement seront tenus responsables des pertes en vie humaine que la maladie est en train de causer. Le docteur Jean Minan.
Plusieurs personnes meurent chaque jour par dizaines dans tout le pays, dans toutes les provinces et même dans toutes les communes. Mais malheureusement, le pouvoir en place continue à nier ce fait, ce drame, qui pourtant est visible et net aux yeux de tous les Burundais, aux yeux de toute la communauté internationale. Aujourd'hui, le Burundi est inscrit dans la zone rouge par rapport aux autres pays de la communauté internationale. Il est grand temps que le pouvoir en place prenne les choses au sérieux pour qu'il prenne des mesures qui sont connues pour combattre de la manière la plus forte et la plus sérieuse ce fléau, parce qu'il va décimer tout le peuple burundais si rien n'est fait. Le premier à se lever et à prendre les choses en main, parce que c'est lui le chef suprême de tout, c'est le président de la République. Il ne faut pas déléguer son pouvoir. C'est lui le tout premier qui doit se lever et prendre les choses en main, créer un comité de lutte contre ce fléau, un comité technique, un comité scientifique à tous les niveaux, et que chaque fois, au moins chaque semaine, que le gouvernement, le conseil des ministres, évalue la situation du Covid-19 et les mesures qui ont été prises, les ajuster. Pas de demi-mesure. Et le tout, commencer une vaccination, une large vaccination des citoyens. Si rien n'est fait de tout cela, il n'y a pas de doute que le Burundi continuera à être en deuil tous les jours. Mais pire, c'est que tôt ou tard, ce pouvoir sera accusé de non-assistance à personne en danger ou d'avoir laissé ses citoyens mourir.
Et dans l'actualité, au Burundi, il y a la rentrée scolaire ce 13 septembre, mais il s'est révélé que nombre d'élèves n'ont pas respecté la directive de se faire dépister au Covid-19 avant de retourner à l'école. C'est le cas de la province Kayanza, où certaines écoles ont enregistré très peu de candidats à la rentrée, les autres ayant été refusés d'intégrer ces établissements. Une situation contraire à celle de Muyinga, où les élèves ont répondu massivement à la campagne de dépistage au Covid-19 avant de regagner leurs écoles. Reportage signé Josephine Jones Munziman.
Dans la province de Muyinga, tous les élèves n'ont pas pu répondre au rendez-vous de la rentrée car certains n'avaient pas encore fait le dépistage. Selon nos sources, à Muyinga, à ce jour de la rentrée, les élèves sont toujours visibles dans les centres de dépistage situés dans les 7 communes de la province sanitaire. Ceux qui n'ont pas pu avoir le certificat qu'ils ont été testés positifs sont des retardataires qui ont préféré se présenter ce lundi au moment où leurs collègues répondaient au rendez-vous de la rentrée scolaire, selon nos sources. Dans la province de Kayanza, dans la matinée de ce lundi, on pouvait constater de longues files d'attente à l'hôpital de Kayanza, lesquelles s'observaient jusque dans l'après-midi. Quant aux élèves orientés au poste fondamental en des provinces lointaines, ils étaient accompagnés par leurs parents dans cette activité avec des bagages sur eux. La situation se présente ainsi alors qu'il est prévu que cette même activité qui a débuté vendredi de la semaine passée se termine demain mardi. Toutefois, les enseignants obligés de se faire dépister trouvent cela comme une aberration du moment qu'à la fin des cours, ils retournent chez eux à la maison où la plupart habitent dans des quartiers, ce qui ne peut pas les mettre à l'abri de la contamination. La province scolaire de Kayanza compte 5 établissements scolaires à régime internat.
Toujours dans notre domaine de l'éducation, les parents des élèves de l'école Sunrise School de Rumonge sont inquiets et pour cause, leurs enfants n'ont pas repris les cours ce lundi comme tous les autres à travers le pays. Selon le ministre de l'Éducation, cet établissement privé n'a pas encore eu tous les documents exigés. Les parents demandent aux autorités de l'école et à l'administration de tout faire afin que leurs enfants reprennent le plus rapidement possible les cours. Le point avec Blaise Nijibé.
En uniforme, les enfants se sont rendus ce lundi à l'école Sunrise du centre urbain de Rumonge. Les parents disent être surpris. Ils savaient jusqu'à ce lundi que l'école allait ouvrir ses portes. Cependant, la direction provinciale de Rumonge avait ordonné que Sunrise School n'ouvre pas ce lundi pour n'avoir pas rempli toutes les conditions exigées.
Nous sommes préoccupés par le cas de nos enfants qui n'ont pas été accueillis à l'école. Ce qui nous inquiète le plus, les autorités de l'école ne communiquent pas sur les documents qui manquent selon les exigences du ministère. Nous sommes dans l'impasse, nous ne savons pas quoi faire. Si les enfants vont rater toute l'année ou s'ils vont être transférés dans une autre école.
Les responsables de Sunrise School n'ont cessé de collecter des frais scolaires. Les parents demandent à l'administration de Mbongue de s'impliquer pour que les enfants puissent retourner à l'école.
Nous demandons au gouverneur de Lumonge de nous aider pour éviter que nos enfants ratent cette année scolaire. C'est une perte pour la jeunesse, pour nous les parents et pour le pays. S'il faut chercher des documents ou d'autres besoins nécessaires pour la réouverture de l'école, faites-le, mais il faut que les enfants étudient.
Depuis 2017, plusieurs établissements scolaires du centre urbain de Lumonge se sont vus retirer l'agrément par le ministère de l'Éducation suite aux irrégularités observées, entre autres l'obtention des documents exigés. La radio Inzamba a contacté le représentant légal de Sunrise School pour savoir la suite sans succès. Le gouverneur de Lumonge, Constantin Nitunga, lui aussi n'a pas décroché son téléphone pour nous dire la part de l'administration dans la résolution de son conflit.
Inzamba.
La pénurie d'eau potable dans certains quartiers de la capitale politique du Burundi, des habitants de Gitega font savoir que la vie est devenue difficile à cause de ce manque criant d'eau potable et craignent la contamination des maladies des mains sales. Ils dénoncent la régie des eaux de procéder à une distribution discriminatoire de ce produit car les quartiers résidentiels et les hôtels sont approvisionnés. Plus de détails avec Benny Axela Kama.
Les habitants de certains quartiers de la capitale politique du Burundi s'indignent du non-approvisionnement prolongé de l'eau potable. Une situation rend la vie de plus en plus difficile. Un bidon de 20 litres d'eau coûte 500 francs burundais. Et d'ajouter qu'ils peuvent passer 2 à 3 semaines d'attente de moins une goutte d'eau dans les robinets.
Bien sûr qu'il y a une discrimination assez forte entre la distribution d'eau de la régie des eaux dans les différents quartiers de la ville de Gitega. Je peux vous donner un exemple très concret. Dans les quartiers Yoba, Nyabututsi, Rango, où il y a une population qui n'a pas d'influence politique ou économique, l'eau de la régie des eaux y arrive après une semaine, deux semaines, voire même 4 semaines. Tu peux passer tout un mois sans avoir de l'eau de la régie des eaux.
Ils grognent contre ceux qu'ils qualifient de discrimination, des quartiers résidentiels et les grands hôtels sont quotidiennement approvisionnés en eau potable et de renchérir qu'il leur est difficile de lutter contre la pandémie de Covid-19 qui exige de se laver les mains tout le temps alors qu'ils ne sont pas approvisionnés en eau potable.
Parfois, on observe que dans les quartiers, que je dirais IP, les gens qui vivent là-bas arrosent les jardins, lavent les véhicules et l'eau qui se déverse gratuitement. Tandis que dans les quartiers populaires, avoir un litre d'eau, ça coûte une fortune. La régie des eaux se permet d'acheminer l'eau de la régie des eaux dans nos robinets, dans les heures avancées, 4h du matin à 3h du matin. Vous constatez alors que dans cette situation, tout le monde ne peut pas rester éveillé pour avoir de l'eau de la régie des eaux, alors qu'ils sont des clients comme les autres.
La rentrée scolaire avec cette pénurie vient d'ajouter le drame au drame de cette situation qu'il qualifie de précaire à cause de ce manque criant de l'eau potable. La rédaction de Radio Inzamba Agateka Kawe n'a pas encore eu la version de l'ingénieur Jean-Claude Manilakiza, directeur général de l'hydraulique Centre-Est, pour pouvoir éclairer l'opinion à propos de cette situation qui prévaut dans la capitale politique du Burundi.
Du centre du pays, rendons-nous au sud, où les habitants du chef-lieu de la commune Kayogoro, en province de Makamba, se lamentent contre le comportement de certains policiers. C'est après que ce lundi, des habitants de cette localité soient intervenus pour empêcher un policier d'embarquer injustement une moto. Les usagers des motos demandent aux autorités habilitées de publier la liste de documents exigés d'une moto. C'est ce qui permettrait de lutter plus efficacement contre les mauvaises habitudes des policiers qui en font des prétextes pour extorquer de l'argent aux conducteurs de ces engins. Les détails avec Vanessa Muhiteka.
C'est le brouhaha qui prévalait dans le parking des motos, au chef-lieu de la commune Kayogoro, en province de Makamba. C'était ce lundi vers 9h. au moment où l'homme en uniforme a voulu embarquer une moto qui se trouvait sur place. Malgré l'intimidation à l'aide d'une arme, les autres transporteurs et les habitants de cette localité n'ont pas pu céder devant le comportement de ce policier connu sous le nom Moussaouza. Voici le témoignage d'un homme qui était sur place.
Les deux policiers ont sauté sur la moto qui était là bloquée. La population est intervenue en foule et a demandé à ces policiers le motif de ce comportement. Cette foule a fait recours à la force pour les en empêcher. C'est là où Moussaouza a demandé une arme à son collègue. Ce dernier a d'abord refusé, mais par après, il la lui a donnée. Essayant de tirer, la population a crié, lui indiquant que si une fois il tire, il ne peut pas tuer toute la foule seule. C'est dans cette dispute que la population a voulu se faire justice. Il n'y a pas eu de dégâts, Dieu merci.
Ceux qui déplacent leurs clients par moto demandent la mise en place des documents détaillés des motos pour décourager le mauvais comportement de certains policiers.
Que le gouvernement résolve ce problème des motos car certains policiers et les transporteurs par moto sont comme les chats et les souris. Nous voulons que tous les documents des motos soient disponibles à Kayogoro. Ainsi, ces policiers ne courront plus derrière les motos et n'auront plus de prétexte pour les arrêter.
La rédaction de la radio Inzamba a contacté par téléphone le commissaire provincial de la police à Makamba, Emmanuel Manadio, pour qu'il s'exprime sur son comportement de certains policiers, mais il n'a pas décroché.
Et un mot de sport de ce week-end pour terminer cette édition. Les équipes du Burundi qui participent dans le championnat d'Afrique de volleyball sont à la traîne. Leur niveau montre qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Au football, Bomamuru et Messager Ngozi, représentants du Burundi au championnat africain interclub, n'ont pas non plus brillé pour leur premier match. Des détails avec Jacob Siboma.
Le club de Bomamuru qui représente le Burundi à la Coupe de la Confédération a joué son match contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville à Azam Complex à Dar es Salaam. Le match s'est clôturé sur un score nul et vierge. Ce match a été joué à ce stade puisqu'aucun stade de football du Burundi n'est homologué par la Confédération africaine de football pour des compétitions internationales. C'est sur ce même stade que Messager Ngozi, qui n'a fait mieux qu'un match nul d'un but partout au Niger devant le club de l'Union de la Gendarmerie Nationale, accueillera cette équipe du Niger au match retour. Ce manque d'infrastructure est un handicap pour les équipes du Burundi qui jouent leur match en dehors du Burundi. Ils perdent le soutien du public ainsi que de l'argent. Ils sont obligés de dépenser pour les voyages et ne bénéficient pas des recettes générées par les entrées au stade. Au championnat d'Afrique de volleyball qui se déroule à Kigali, les équipes du Burundi ont du pain sur la planche. La formation masculine a terminé les matchs de groupe par 2 défaites et 1 victoire contre le Burkina Faso. Pour le moment, cette formation burundaise de volleyball joue les matchs de classement de la 9e à la 16e place. Ce lundi, les joueurs du Burundi ont perdu contre le Mali sur un score de 3-7-1. Chez les dames, le niveau est plus élevé pour la formation burundaise. Au premier match, le Burundi a été battu par la République démocratique du Congo sur un score de 3-7-0. La suite s'annonce plus dure pour la formation burundaise. En effet, elle doit affronter le Cameroun tenant du titre et le Kenya vice-champion et terminera la campagne des matchs de groupe par la Tunisie.
Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs, de nous rester fidèles. Merci également à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Au revoir et à la prochaine.